Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de partager ce moment avec vous cet après-midi. C'est vrai que la dernière fois que je me suis trouvé au milieu de vous, ça doit faire 2 ans en arrière. L'année dernière, c'était au travers des moyens audiovisuels. Alors, je ne sais pas si nous sommes en duplex, là. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent aussi à distance? Eh bien, bonjour à celles et ceux qui sont à distance. Que le Seigneur bénisse sa parole cet après-midi et qu'il non seulement nous fasse du bien, nous enseigne, nous exhorte et nous encourage à persévérer dans sa parole. Cet après-midi, j'aimerais lire avec vous le cantique d'Anne, le méditer un petit peu avec vous, et avant d'en faire la lecture, peut-être dire quelques mots du contexte de ce fameux cantique extraordinaire, en quelque sorte, qui nous fait penser aussi au cantique de Marie, la mère de Jésus. Alors, le contexte, si vous vous souvenez du premier chapitre de ce livre de Samuel, du premier livre de Samuel, donc le contexte, c'est la stérilité d'Anne. Anne, une femme stérile, et elle souffrait de ne pas pouvoir enfanter. Je pense que toutes les femmes comprennent cela mieux que nous les hommes encore. Et le facteur social, le facteur contemporain dans lequel elle se trouvait, eh bien, pour une femme qui ne pouvait enfanter, c'était une malédiction, c'était un sujet de honte. Et donc, ayant déjà la honte qui pèse sur elle, de par simplement la société, Anne se trouve de plus exposée aux moqueries de Pénina, l'autre épouse de son mari Elkana. Il avait 2 épouses. Elle est exposée au déshonneur, elle est déconsidérée, ou peut-être qu'elle se voit elle-même aussi déconsidérée, comme Anne l'a méprisée. Oui, littéralement on peut dire la méprisée, celle qui est délaissée par Dieu. C'est comme ça que les choses s'interprétaient. Pourtant, beaucoup d'entre vous, je pense, peut-être tous, vous savez ce que signifie Anne en hébreu, Anna, grâce. Avec un tel nom, comment pouvait-on imaginer une telle ironie du sort? Et pourtant, la suite dit autre chose. Oui, dans la tradition juive, la femme stérile n'était rien. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui de déconsidérer l'autre. Aujourd'hui, à la grande époque du féminisme, on offrira des possibilités pour pallier à la stérilité. On louera celles qui ont recours même aux plus discutables des solutions. Mais par ailleurs, la femme sans travail qui se consacrerait à élever ses enfants n'a aucun statut social, la mère au foyer. Elle est hypocritement méprisée, inconsidérée, parce qu'elle ne travaille pas, elle ne fait pas carrière, elle n'honore pas la doctrine de la libération de la femme. Elle n'apporte pas vraiment quelque chose à la société. Elle est regardée comme stérile pour la société. L'être humain trouvera toujours le moyen de mépriser un autre être humain, même s'il s'en cache par un remarquable discours de bien-pensance. C'est bien d'actualité, ça, les discours de bien-pensance. Alors, pour en venir à notre contexte qui va pousser Anne à prier de cette manière, à élever sa voix dans ce magnifique cantique, elle évoque un vœu devant l'Éternel. Elle évoque un vœu qui pourrait avoir à simple lecture un peu une odeur de chantage. Hein? Pour celui qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas le contexte juif de l'époque. Pourtant, c'est une époque où les vœux ne manquaient pas. Ils étaient fréquents et on en trouve tout au long de l'Ancien Testament. Et ici, très certainement, à mon avis, eh bien, la suite le dit aussi, elle était inspirée par l'Esprit Saint. Donc je veux juste lire ces deux versets dans le premier chapitre, au verset 10, elle était très affligée. Très affligée, elle pria l'Éternel en pleurant, traduit la Bible Semeur 2015, à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant, Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Quel engagement, quel vœu, quelle promesse. Pas vraiment l'allure d'un chantage. Juste avant notre lecture, notons que les deux livres de Samuel sont d'une certaine manière encadrés par deux remarquables cantiques. Celui que nous allons lire ensemble, que nous allons quelque peu méditer, le cantique d'Anne, et puis au chapitre 22 du deuxième livre de Samuel, le cantique de David, un des cantiques de David, on pourrait dire, mais un très long cantique celui-ci. Et ils avaient quelque part des expériences un peu similaires. David a été aussi, en son temps et à plusieurs reprises, méprisé, mis de côté. Des cantiques de reconnaissance et d'action de grâce. Certains spécialistes disent du cantique d'Anne qu'il est d'une rare beauté. Alors, comme moi, je ne suis pas poète, je ne suis pas apte à le dire aussi bien que certains spécialistes. L'auteur ayant su mettre les ressources multiples de la poésie hébraïque au service de la louange et de l'exaltation de Yahweh lui-même, de Dieu lui-même. Là, je cite Christophe Desplanques dans un des Hokmas du temps passé. Un psaume d'action de grâce, une louange à Dieu, un cantique qui ressemble à celui de Marie, comme je le disais tout à l'heure, un psaume qui exprime la joie, la justice, la souveraineté de Dieu, l'espérance, la confiance. En résumé, la foi en Dieu, à l'instar d'Abraham lui-même, la foi en Dieu. Je lis avec vous, donc, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, et je lis les 11 premiers versets. Merci, ça m'aide un petit peu la lumière. Donc je lis dans la version Semeur 2015. Alors, Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé. Et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Nul ne l'égale, l'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est lui qui pèse les actes des humains. Voilà brisé l'arc des guerriers. Ceux qui chancellent sont armés de vigueur. Tous les repus s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de biens, et la stérile met 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. De la poussière, il arrache le pauvre. Et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. à l'Éternel sont les fondements de la terre. Et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ceux qui lui sont attachés. Mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. Du haut du ciel, il tonnera contre eux. Il jugera les confins de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il élèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile. Après cela, Elkana retourna chez lui à Rama, et le jeune garçon fut au service de l'Éternel auprès du prêtre Élie. Nous arrêterons là notre lecture de la parole de Dieu. Dans ce cantique, nous y voyons la joie, nous y lisons la joie d'Anne, son exaltation de l'Éternel qui domine tout ce cantique. En le lisant, nous ne pouvons dire autre chose qu'il s'agit d'une femme épanouie, d'une personne bien dans sa peau, d'une personne qui respire la joie. Et elle exprime clairement sa reconnaissance. Elle proclame Dieu et elle dit qui il est. Au travers de ce cantique, elle exalte vraiment le Seigneur. Clairement, on peut dire inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle va même jusqu'à prophétiser dans ce cantique. Alors, je méditerai en trois petites phases. Donc, premièrement, nous parlerons d'Anne qui exprime sa joie. Deuxièmement, de son exhortation, un peu prophétique. Et puis, troisièmement, nous parlerons de son espérance, l'espérance d'Anne, l'espérance du croyant. Oui, Anne exprime sa joie suite à l'intervention de Dieu qui a exaucé sa demande. Qui ne le ferait pas après un tel exaucement? Et surtout, elle attribue bien à Dieu ce qu'elle appelle son salut, son secours, le secours qu'elle a reçu. La sortie de cette épreuve, la sortie de cette souffrance, elle est relevée. Elle a la tête qui s'est relevée. Elle est délivrée. Elle est libre. La question qu'on peut se poser, c'est voit-elle juste son petit monde à elle? Est-elle juste centrée sur elle-même? S'agit-il d'une joie relativement égoïste en voyant ce que Dieu a fait pour moi, pour moi, pour moi? Ou d'une joie qui s'inscrit dans une relation solide, vraie, profonde? Joie d'avoir été exaucée, oui, d'avoir été relevée, oui, mais aussi, et peut-être surtout ici, joie de rendre à Dieu ce qu'il a donné. Rendre à Dieu ce qu'il m'a donné. Notons bien ici que Anne dit sa joie après avoir déclaré, comme nous le voyons à la fin du premier chapitre, après avoir déclaré qu'elle consacrait son fils à l'Éternel. C'est uniquement après cela qu'elle se met à prier à haute voix. Sa joie. Elle avait longtemps prié, des années probablement. Elle a reçu, en réponse à sa prière, à ses larmes, à son attente devant Dieu, et elle a redonné. Elle a redonné. Combien souvent nous aimons garder précieusement ce que Dieu nous a donné? Précieusement pour nous. Et tout à l'heure, dans une prière, notre sœur a fait écho à cela en rappelant que le Seigneur nous a donné pour que nous redonnions ce qu'il nous a donné, que nous annoncions cet évangile. Et Anne est tellement joyeuse, heureuse de ce que Dieu a fait, qu'elle se déclare comblée. Regardez au verset 5. Tous les repus s'embauchent pour du pain, les affamés seront comblés de biens, et la stérile met 7 enfants au monde. Les affamés, c'était son cas, hein, dans sa stérilité, dans son attente, eh bien, seront comblés de biens. Et il est clair pour moi qu'elle parle d'elle en parlant de ce que Dieu a fait pour elle. Elle est comblée. Et elle l'illustre bien en précisant la stérile met 7 enfants au monde. La suite du texte nous dit qu'elle n'a pas eu 7 enfants, elle en a eu 5 derrière. Hein? Mais que veut-elle dire en disant la stérile met 7 enfants au monde? Bien sûr, elle fait allusion à ce chiffre de la plénitude pour simplement dire elle est réellement comblée. Elle a tout reçu et elle loue Dieu pour cela. Et pour les Juifs, avoir 7 fils, c'était le comble de la bénédiction. Donc on comprend bien pourquoi elle peut utiliser une telle image et ce que cela peut signifier pour elle. Et quand elle le dit, elle n'a aucune certitude et aucune assurance que Dieu va lui donner d'autres enfants. C'est important ça. C'est un peu plus loin dans le même chapitre que nous pouvons découvrir qu'elle a eu 3 fils, si ma mémoire est juste, et 2 filles. Donc, elle ne savait rien, mais elle se disait, elle se considérait comblée en ayant reçu et rendu à Dieu. Quelle foi, quelle soumission au Père Céleste. Oui, Dieu fait justice, il renverse les pratiques égocentriques, les pratiques égoïstes humaines, qui nous talonnent tous dans notre quotidien pour relever le faible, l'opprimé, le pauvre, une place d'honneur pour eux. Dieu se plaît à renverser les situations, c'est bien ce que nous pouvons lire dans les versets 4 et 5, le 5 que nous avons déjà lu. « Voilà briser l'arc des guerriers, ceux qui chancellent sont armés de vigueur et tous les repus s'embauchent pour du pain, les affamés seront comblés de biens. » La stérile met 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. Dieu fait justice. C'est ce qu'elle déclare avoir saisi. Et aussi, elle reconnaît, en exprimant sa joie, elle reconnaît que Dieu est souverain de A à Z. Il tient toutes choses dans ses mains. Au verset 8, « De la poussière, il arrache le pauvre. » Il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur à l'Éternel, les fondements de la terre. C'est sur eux qu'il a posé le monde. Elle reconnaît la souveraineté de Dieu. Elle la déclare. Elle la dit. Elle la vit. Il tient toutes choses dans ses mains. Il exerce souverainement sa puissance. Mon deuxième point, l'exhortation que nous pouvons lire dans ce cantique, un cantique louange, reconnaissance envers son Seigneur, mais en même temps, en s'exprimant, eh bien, voilà, le Saint-Esprit pousse et des choses sortent de la bouche de l'adorateur. Il y a là, oui, une exhortation au cœur de cette louange, comme je le disais tout à l'heure, hein, d'une certaine manière prophétise, elle exhorte. En fait, elle prononce 2 avertissements. Qui ont une connotation prophétique. L'œuvre profonde de Dieu en Anne laisse libre cours à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit est bien libre en nous lorsque nous lui laissons réellement la place de s'exprimer, lorsque notre relation avec Dieu a de la profondeur, si j'ose le dire ainsi. Au verset 3, disons que cessent donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche. Car Dieu sait tout. Que cesse cette manière de se comporter, l'arrogance, l'insolence, l'audace même devant Dieu. J'ai reçu de Dieu, Donc, j'ai la tête haute. Vous pouvez imaginer qu'elle fait appel à ce qu'elle vivait dans sa relation avec l'autre épouse, avec Pénina, qui était certainement arrogante à son égard quand on lit le premier chapitre. Oui, moi, j'ai reçu. Moi, je suis positionné par l'Éternel, par mon Dieu. Ce que Dieu m'a donné, pour nous, nous pouvons aussi très vite nous laisser entraîner. Ce que Dieu m'a donné est bien à moi, et j'en fais ma fierté. Hein ? C'est bien à moi qu'il l'a donné. Bien sûr, je suis conscient que c'est une responsabilité, mais c'est bien à moi. Hein ? Et quelquefois, le fait de posséder la chose est plus important que le fait d'avoir conscience de la responsabilité que Dieu nous donne avec ce qu'il nous a donné. Par exemple, il nous a donné des enfants magnifiques, hein, c'est toujours les plus beaux du monde, hein, jusqu'au jour où ils nous déçoivent, pardon. Hein? Alors, on remercie le Seigneur, et puis on peut le remercier aussi pour le travail qu'il nous a donné, pour l'argent qu'il nous a donné, pour pouvoir vivre correctement, aisément. On prie même pour avoir un travail, hein, quand on sort des études ou quand on a perdu son travail. Et puis quand Dieu répond, « Merci Seigneur, c'est exactement ce que je voulais. C'est ce qui me plaît. » Ou bien, « Est-ce que, Seigneur, ce que tu m'as donné, je veux te le rendre. Je veux te glorifier au travers de ce don, au travers de ce travail, comme toute autre chose. Je veux pouvoir te consacrer mon temps dans ce travail. » Oui, peut-être si je gagne de l'argent, l'utiliser à ta gloire, mon temps aussi. Je prie aussi pour la santé, hein, nous prions tous pour la santé de nos bien-aimés, pour la santé des frères et sœurs dans l'Assemblée, et quelquefois pour la santé de celles et ceux qui ne sont pas dans l'Assemblée, mais qui sont proches de nous. Et nous arrive de prier pour leur santé en oubliant de prier pour leur santé spirituelle. On prie souvent pour la santé physique en oubliant que ceux qui ne sont pas au Seigneur, peut-être qu'il faut en même temps prier pour leur santé spirituelle, c'est-à-dire pour leur découverte du salut en Jésus-Christ, pour leur rencontre avec Christ. Et quand le Seigneur nous répond, là encore, quelquefois, ce matin, nous avons entendu dans notre assemblée un témoignage d'une sœur qui avait demandé de prier pour un petit-neveu, elle, qui est venue au monde avec une malformation cardiaque. Et donc, évidemment, c'est émouvant, c'est saisissant. Et donc, ses parents, cet enfant, sont croyants aussi. Et nous avons prié, ils ont prié. Et ce matin, nous avons entendu qu'aux derniers examens, il n'y avait plus rien, comme si jamais il n'y avait rien eu. Alors, évidemment, on se glorifierait presque de ça. Mais c'est Dieu qu'il faut glorifier. C'est Dieu qu'il faut glorifier. Et qu'est-ce que Dieu veut faire de cela ? Qu'est-ce que Dieu veut faire de cela dans ma vie ? Ou est-ce que je crie sur les toits, « Ah, mais chez nous, Dieu guérit !» Dieu donne ! Dieu nous donne tout ce qui convient pour pouvoir vivre. Et donc, je considère que puisqu'il guérit, puisqu'il m'accorde ceci ou cela, eh bien, il m'agrée pour mon confort, pour que je ne souffre plus, ou bien pour mieux le servir. Ça nous aide à peut-être réfléchir ce qu'il y a derrière nos prières, derrière nos attentes, tout en sachant que Dieu, dans sa grâce, même s'il n'y a pas toujours les bonnes choses, il va utiliser cela pour nous ouvrir les yeux, pour nous ouvrir les cœurs. Oui, Dieu sait tout, comme ce verset 3 nous le rappelle. Il voit tout, il est au courant de tout et il sait tout ce qui se trame dans nos cœurs. Nous ne percevons pas tout le temps ça, hein. On l'oublie un petit peu quelquefois, hein. Ce qui nous donne certaines libertés, entre guillemets, qui ne plaisent pas toujours au Seigneur. Et puis le deuxième aspect, le deuxième avertissement, quelque peu prophétique aussi au verset, à la fin du verset 5, nous lisons « Celle qui avait beaucoup sera flétrie ». À la fin au verset 9, nous lisons « Les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. » Et au verset 10, « Celui qui conteste contre Dieu, ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. » du haut du ciel, il tonnera contre eux, il jugera les confins de la terre. » Oui, on peut dire que, inspirée par l'Esprit, elle annonce quelque chose de dur, mais qui va avec la louange et l'adoration, avec le salut. Le jugement ne peut pas être détaché du salut. Troisième point sur lequel je veux m'arrêter avec vous cet après-midi, l'espérance d'Anne. Notre espérance, l'espérance du croyant. Au cœur de ce cantique, oui, il y a une note extraordinaire d'espérance, et je pense que dans toute louange solide, concrète, construite, profonde, il y a l'espérance. Au verset 6 de ce cantique, c'est l'Éternel qui fait mourir et vivre, il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. Ça vous fait pas penser à la résurrection ? Vous rendez compte que à cette époque-là, existait déjà le sens de la résurrection, l'espérance de la résurrection des morts, déjà au temps d'Anne. C'est un vrai témoignage, ce psaume, dans ce sens, comme on en trouve d'autres dans le livre des psaumes. Au verset 10, la deuxième partie du verset 10 que nous n'avons pas relu à l'instant, « Il donnera la puissance à son roi et il élèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile. » De qui parle-t-il ? Hein ? Du Messie. Du Messie à venir. Quelle note d'espérance ! Son espérance, elle est fondée, elle sait pouvoir compter sur Dieu. Quelle note d'espérance ! Et enfin, troisième point, sa protection dans l'espérance, la protection de Dieu et sa bienveillance au verset 9. Il gardera les pas de ceux qui lui sont attachés. Les traductions les plus traditionnelles disent de ses bien-aimés, de ses bien-aimés. Ses bien-aimés, ce sont ceux qui lui sont attachés. Il y a une véritable relation, une interactivité dans la relation entre Dieu et ceux qui lui sont attachés. Sa protection et sa bienveillance, c'est pour aujourd'hui, mais c'est aussi pour demain et c'est pour l'éternité. Ça s'inscrit aussi pour moi dans l'espérance d'Anne qu'elle dit, qu'elle communique, qu'elle dit à Dieu, qu'elle dit à ceux qui sont là, présents aussi. Alors pour note finale, Dieu relève, oui, c'est lui qui élève, c'est lui qui donne la force, sa force. Alors, la vraie louange, chers amiraux, j'ai pas de leçon à donner sur ce qu'est la vraie louange, mais la reconnaissance de l'enfant de Dieu se traduit, oui, en action de grâce, mettant à l'honneur celui de qui tout vient et qui tient toutes choses dans ses mains. Il ne s'agit pas juste d'un merci parce que Dieu m'a livré la commande que j'ai passée, aussi vite qu'Amazon, peut-être même plus vite qu'Amazon. Oui, Dieu s'est occupé d'Anne, il l'a relevée, mais pas seulement. Cette épreuve et la bénédiction qui a suivi ont contribué à une relation, comme je disais tout à l'heure, profonde, pleine de sens et pleine de la vie authentique, de cette vie éternelle qui, comme Jésus le disait dans sa prière sacerdotale en Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Après avoir pleuré secrètement toutes les larmes de son corps, comme on dirait, devant l'Éternel, une fois relevée, elle chante publiquement sa joie, sans fausse pudeur. Anne voit Dieu dans toute sa splendeur, sa grandeur, sa puissance, sa magnificence, sa souveraineté, sa grâce, sa justice, etc. En fait, elle contemple littéralement Dieu. On peut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par contempler, hein ? Parce que de nos jours, on met beaucoup de choses bizarres derrière la contemplation, hein, certaines formes de méditation, etc. Hein, qui on contemple, soi-même, l'autre, un Dieu ou pas un Dieu. Mais contempler Dieu, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Peut-être un regard profond, cherchant à mieux le voir, si c'est possible, mieux le rencontrer, mieux le connaître, comme on pourrait, par exemple, du sommet d'une montagne à 360 degrés, vous savez, là, je ne sais pas si vous êtes amoureux de la montagne, mais moi, je trouve qu'un des plus beaux endroits de la montagne, c'est quand vous êtes sur un sommet où vous pouvez juste, voilà, vous retourner et à 360 degrés pouvoir explorer au loin et voir ces montagnes. Et dans les Alpes, c'est extraordinaire. Hein. Il y a des points de vue fabuleux à ce niveau-là. Voir comme ça à 360 degrés. Voir, on a l'impression, sans fin, sans limite. Explorer, chercher, creuser, voir qu'est-ce qu'il y a là un peu plus loin. Et quelquefois, on regarde tellement loin qu'on oublie de voir ce qui est juste sous notre nez. Hein ? Contempler, c'est ça. C'est pas juste attendre comme ça. Hein ? Je n'ai rien contre les gens qui contemplent aussi calmement. Mais contempler, il y a de la profondeur dedans, quelle que soit notre attitude. Il y a cette profondeur d'aller voir Dieu plus loin. Et oui, on le contemple dans la lecture, la méditation, l'étude de sa parole, par exemple. On pourrait prendre comme autre image quand Dieu dit à Abraham, au chapitre 15 de la Genèse, en lui promettant une descendance sans limite, il dit, viens voir, lève les yeux, regarde le ciel là, regarde les étoiles, hein. Compte-les. Compte-les. Qu'est-ce qui t'est arrivé à compter les étoiles, hein? Je ne sais pas ce que disent nos spécialistes, des milliards et des milliards et des milliers de milliards. Mais compte-les. Voilà ta descendance. Oui, explorer, aller plus loin. Et avec Dieu, il y a toujours à découvrir, à contempler, à le connaître mieux. On n'a pas fini de scruter avec Dieu. En Dieu, Anne, oui, ne voit pas seulement celui qui l'a délivré, relevé, voire honoré, soulignant victoire et jugement. Elle est renouvelée dans son espérance en Dieu, ce qui lui fait entrevoir ce Dieu qui se révèle, son Dieu qui se révèle, et du coup elle le glorifie pour toute son œuvre, depuis la création jusqu'au salut, présent et à venir, de la mort à la vie. Elle est vraiment entrée dans la joie de Dieu. Cette même joie dans laquelle nous sommes entrés quand Christ nous a, nous aussi, relevés après avoir déposé le fardeau de notre péché à la croix, nous réconciliant avec le Père par l'œuvre magistrale de la croix et de la résurrection. Quelle espérance, mes amis, quelle espérance. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Il a renversé la honte qu'avait Anne, au point de mépriser cette honte, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il règne à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Et Jésus de dire à ses disciples en Jean 13, verset 22, « Votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. » Quelle promesse pour aujourd'hui et pour demain. Quelle espérance. Amen.